Peter Greenaway s'est forgé une réputation de cinéaste iconoclaste dès son premier long métrage en 1982. Et son œuvre originale et volontiers provocatrice a marqué le cinéma britannique des années 80 et 90, avant qu'il ne poursuive des projets multimédia, quelquefois, enfin, souvent ésotériques, et puis également quelques films que je qualifierais d'obsessionnels et peu convaincants. Son œuvre reste ainsi étroitement associée à celui du compositeur Michael Nyman, par exemple, ou ses débuts. Nyman, qui a d'ailleurs pu déclarer après leur rupture, donc c'était après Prosperous Books, que le succès des films de Peter Greenaway tenait principalement à sa musique.
Ouais, toujours.
C'est oublier également la collaboration du metteur en scène avec le directeur de la photographie, donc Sacha Vierny, qui, à mon sens, est tout aussi remarquable. Sacha Vierny a éclairé en effet tous les longs métrages de Peter Greenaway depuis son deuxième, Z and Two Notes, en 85, jusqu'à 8 femmes et demie, 8 and a half women. Et donc seule sa mort survenue en mai 2001, l'a empêché de prolonger la liste. Peter Greenaway expliquait qu'il avait fait appel à Sacha Vierny parce qu'il admirait son travail avec Alain Resnais, et plus précisément l'année dernière à Marienbad. Donc l'un des films qui, selon les dires du metteur en scène britannique, a le plus marqué. Hein. Donc pour souvenir, le film marqué d'un récit hypnotique hein, qui mêle temporalité fluctuante, personnages hiératiques, et comme vous voyez ici, est servi par une photographie au contraste extrême, notamment d'un plan à l'autre, donc créant souvent un effet de montage thromboscopique. On comprend sans mal que ce récit atypique ait pu séduire Peter Greenaway. Son cinéma se caractérise pareillement par une recherche tant sur le plan narratif qu'esthétique, visant à faire l'économie d'une narration centrée sur la psychologie des personnages, donc au profit de structures narratives souvent complexes, parfois et cérébrales, basées sur des réseaux signifiants, mêlant système taxinomique, donc sur le principe linéaire de la liste, et références rhizomatiques sur le principe de l'hypertexte. De même, ces films frappent par le soin extrême apporté à la composition picturale et la grande sophistication qui caractérise donc la photographie. On se souvient que Peter Greenaway donc a reçu une formation de peintre, qu'il pratique la peinture en amateur, et donc il n'est pas très surprenant que le metteur en scène considère le cinéma, c'est pas non plus très original, donc considère le cinéma comme l'art de peindre avec la lumière, et donc ça fait également référence à un des classiques du premier ouvrage donc d'un chef opérateur, donc en l'occurrence John Houghton, qui intitule donc sa biographie Painting, enfin son ouvrage Painting with Light. L'histoire du cinéma est bien sûr jalonnée de couples légendaires, de metteurs en scène et chefs opérateurs. Depuis les débuts avec Griffith et Billy Bitzer, on citait ce matin Georges Perrinal et les frères Corda, hein, que ce soit Alexandre ou Zordon. On peut citer Cardiff et Powell, Pressburger, et puis bon, la liste est longue. Le tandem Greenaway-Vierny n'en est pas moins un cas exemplaire qui souligne, donc s'il en était besoin, la dimension collective, encore une fois, on en parlait ce matin, qui est l'élaboration d'un film, et en particulier, donc, pour mon propos, l'importance du directeur de la photographie dans le processus de création cinématographique, aussi personnelle la vision d'un cinéaste soit-elle. Sacha Vierny était pourtant très modeste. À propos donc de Z and Two Notes, il rend ainsi hommage au travail d'un autre collaborateur fidèle de Greenaway, qui est son directeur artistique, hollandais Ben Venos. Donc encore un autre exemple de collaboration transnationale. Et donc il souligne la richesse du décor en termes de matière et de couleur, qui évidemment influence son travail. Surtout, donc Peter Vierny se montre toujours soucieux d'être au service de la vision du metteur en scène. Alain Resnais, donc, dans un beau texte, dans un bel hommage hein, au moment de sa mort, disait de lui, c'était un opérateur qui n'était pas concerné seulement par l'image, mais par la totalité du film. Il peut donc sembler paradoxal que Vierny déclare lui-même dans une interview, ce qui me donne satisfaction, c'est que la photographie ne se remarque pas trop pour elle-même. Étrange. Il n'en demeure pas moins que Sacha Vierny partage avec Peter Greenaway le goût des prises de risques et des expérimentations. René encore disait de lui qu'il était, je cite, un expérimentateur infatigable. Et Greenaway, lui, saluait sa flexibilité et son talent pour répondre à ses demandes les plus folles. Je cite, avec Sacha, c'est formidable, il ne dit jamais c'est impossible. Vierny, lui, résumait ainsi l'éthos qui le guidait. Car je suis persuadée que c'est en prenant le risque d'aller trop loin qu'on fait une image intéressante. Sinon, il s'agit simplement d'enregistrer, ce qui est tout simple. C'est moins intéressant que de prendre des risques. Donc j'aborderai le travail de Sacha Vierny dans les longs métrages de Peter Greenaway selon trois axes. Le premier relatif aux compositions picturales et à la structuration de l'espace. Donc comment cette structuration sert le récit filmique. Le deuxième concernant le rôle de l'éclairage dans la structuration temporelle, cette fois-ci de la narration. Et je conclurai par la mise en exergue de la lumière comme spectacle, ce en quoi elle est révélatrice du dispositif cinématographique lui-même. Sacha Vierny a pu expliquer lors d'entretiens quelle passion Peter Greenaway nourrissait pour les éclairages composites et difficiles et combien la vraisemblance lui apportait peu en ce domaine. Avant toute chose, la lumière est utilisée pour sa puissance expressive. À ce titre, donc, elle s'inscrit pleinement dans la traduction picturale à laquelle Peter Greenaway fait abondamment référence. D'après leur témoignage, Greenaway a en effet coutume d'aborder la plupart des questions d'éclairage selon des modèles picturaux. Donc c'est une méthode de travail que Vierny appréciait, qui n'est pas non plus très originale, hein, qu'il avait déjà éprouvée avec René, par exemple. René qui apportait quantité d'images comme source d'inspiration. Vierny expliquait qu'à travers des exemples spécifiques, il trouvait un mode de communication plus direct et plus précis que la mise en mots d'impressions subjectives. Ceci d'autant plus que Vierny parlait très mal l'anglais et Greenaway ne parle pas du tout français. Donc sous ces aspects de boutade, il faut prendre au sérieux une déclaration telle que celle-ci. Avec Peter Greenaway, nous nous entendons très bien puisque nous ne parlons pas énormément. Il ajoute, j'aime bien les décisions, les partis pris, et je n'ai pas l'habitude de demander des explications ou des justifications. Lorsque Peter Greenaway, en référence à Vermeer, me disait que la lumière de As I Am Two Notes, chaque fois que possible, devait venir de la gauche, ça me suffisait. Je n'avais pas besoin d'en savoir plus. Au-delà des citations ponctuelles, donc insert de toile, hein, vous en avez ici, reconstitution en tableau vivant qui servent la narration et par exemple l'identification également au personnage ou mise en abîme thématique. Donc j'ai bien aimé le Mantegna qui se retrouve dans plusieurs films. Donc les références picturales contribuent ainsi non seulement à la cohérence plastique du film, mais aussi donc à l'élaboration du récit, ou inversement. Ainsi, dans As I Am Two Notes, outre la référence à Vermeer, l'éclairage accompagne le rapprochement progressif des jumeaux, après les avoir filmés de façon contrastée. Donc vous voyez Oliva de Blond, baignant dans une lumière chaude et plus diffuse, alors qu'un éclairage plus froid caractérise Oswald Lebrun. De même, l'éclairage participe du motif central de la zébrure, qui a cette particularité donc d'offrir le contraste maximal de deux absences chromatiques entre sous- et surexposition. Alors que l'image est envahie par le motif des zébrures noires et blanches, comme dans ce plan donc montrant un zèbre dans une cage. L'éclairage rétablit donc à lui seul la profondeur de champ, comme vous pouvez voir avec la diagonale de l'ombre. Ici, donc, l'éclairage est ce qui différencie le motif du fond, structurant le plan en espace tridimensionnel. On est ainsi frappé par la façon dont les éclairages découpent plan et arrière-plan, creusent la profondeur de champ par l'entremise d'ouvertures lumineuses, donc fenêtres ou portes, donc ici dans enfilade de couloirs, ici dans As I Learned to Notes, dans The Belly, ou encore dans Eight and a Half Women. La lumière remplit ici une des trois fonctions répertoriées par Jacques Aumont dans son ouvrage de consacré aux relations entre cinéma et peinture, L'œil interminable, à savoir une fonction dramatique liée à l'organisation de l'espace et plus précisément à la structuration de cet espace comme dynamique ou scénique, afin, je cite, d'échapper à la malédiction de l'éclairage plat, sans contraste ni possibilité de différenciation. Peter Greenaway ne dédaigne pas non plus recourir parfois à une autre fonction classique de la lumière, qui est sa fonction symbolique, notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer des peintures religieuses, donc telles les Vierges à l'enfant dans The Baby of Macon ou l'angélisme de Pape dans The Cook, donc filmé en lumière zénitale. Mais on aurait tort de réduire l'éclairage à ces rôles somme toute traditionnels qui respectent un certain souci de lisibilité. La lisibilité des plans n'est pas la préoccupation majeure de Peter Greenaway. Sans parler de ses expérimentations donc, en infographie qui informent Prosperous Books et The Pillar Book, par exemple, donc multipliant assertions d'images et superpositions, la lumière participe avant tout, tout autant, d'un débordement figural, multipliant les motifs plastiques tels que, encore dans Zoo, la zébrure, bien sûr, ou les cages, qui apparaissent dans pratiquement chaque plan par l'entremise d'ombres rayées ou des découpes rectangulaires que sont fenêtres et portes. Autre exemple avec l'exubérance de détails, ton sur ton dans Running by Numbers, ou les décors, la profusion des foules également dans Prosperous Book ou The Baby of Macon, qui jouent dans des compositions, ou qui se font dans des compositions en rouge, or et noir. L'éclairage souligne l'artifice délibéré. Le traitement des ombres portées est ainsi peu soucié de vraisemblance. Dans The Belly of an Architect, quand l'architecte est donc plongé dans la contemplation des séries de photocopies de ventre, vous voyez bien que vous avez l'éclairage de son visage qui est de haut, et puis donc une source qui n'apparaît pas légitimement pour avoir cette ombre qui se détache, donc agrandie. On retrouve également le même processus ici, donc dans Eight and a Half Women, sans source lumineuse précise. Évidemment, donc, ça peut faire penser au célèbre plan dans l'année dernière à Marianne Bann, donc avec son jeu d'ombre en trompe-l'œil, puisque vous savez, vous voyez bien que les personnages ont des ombres, mais le reste n'en a pas. Autre exemple d'un parti pris anti-réaliste, l'usage exubérant de lumière colorée. Donc le film le plus marquant à cet égard reste évidemment The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover, où à chacun des sept lieux est attribué une couleur, soit normalement en hommage à la théorie de la lumière de Newton. Cette utilisation quasi monochromatique crée non seulement un fort sentiment d'oppression, mais également une violence visuelle dans le passage non gradué d'un lieu à un autre. Cependant, contrairement à ce que sa fonction taxonomique laisserait supposer, la répartition chromatique ne garantit aucune stabilité, car les lumières proviennent aussi bien du décor que des costumes ou des projections lumineuses. Contrairement au cuisinier et à l'amant, qui, eux, conservent leurs couleurs respectives dans chacun des lieux, le voleur, sa femme, ses acolytes, eux, sont imprégnés de lumière changeante selon les pièces qu'ils traversent. Donc, à travers l'éclairage, la couleur cesse d'être un attribut des choses et s'en détache. On a un autre exemple dans As I Learned to Notes, lorsque la femme au chapeau rouge, allusion évidemment à la au tableau de Vermeer, pénètre dans les toilettes. Vous voyez, les toilettes sont blanches, mais dès qu'elles pénètrent, ils deviennent éclairés d'une lumière rose. Pour The Cook, donc ces effets de lumière radicaux sont bien sûr facilités par un tournage effectué entièrement en studio. C'est également le cas pour Prosper's Book, The Baby of Macon. Mais la prédilection que partagent Greenaway et Vierny pour les éclairages artificiels s'applique tout autant au tournage en extérieur. Ainsi, le tournage de The Belly of an Architect à Rome, le réalisateur explique avoir voulu réduire la palette chromatique au orangé, entre chair humaine et terre cuite. Donc, il a non seulement fait peindre certains décors, il a donc veillé à ce que les bâtiments soient exposés au soleil et utilise des filtres, comme vous voyez ici, pour éliminer à la fois le bleu du ciel et atténuer le vert de la végétation. Donc, la couleur verte qui reste présente lorsqu'elle survient n'en apparaît que plus intensément. Et dans le film devient synonyme de processus mortifère, en fait, associé donc soit aux figues, qui sont censées être empoisonnées, soit donc au processus de reproduction, en fait, donc à travers la photocopie ou la photographie, puisque la lumière verte ici émane du studio photographique d'un personnage qui est Flavia. Donc certes, l'apport de sources lumineuses en extérieur s'explique parfois par des contraintes techniques. Donc certains faisaient allusion au mauvais temps de la Grande-Bretagne. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que pour le tournage de Drowning by Numbers, par exemple, qui a eu lieu dans le Surrey, alors que le tournage était prévu en été et qu'il a été retardé en automne, donc nul ne peut s'étonner en Grande-Bretagne, des moments de luminosité insuffisante nécessitent des appoints, ou des éclairages d'appoint. Il n'en reste pas moins vrai que le film illustre parfaitement le goût marqué du metteur en scène pour les scènes nocturnes. Et cette fameuse « magic hour », l'heure magique soit du lever, soit du coucher du soleil, dont Jack Cardiff, autre chef opérateur, avant de devenir réalisateur, a fait le titre de son autobiographie, et qui figure également telle une indication technique de script dans les tout premiers plans de « Eight and a Half Women ». Mais outre sa fonction atmosphérique et de façon plus originale, l'éclairage dans Drowning by Numbers est également scansion, donc assurant par exemple la fonction rythmique des l'inghépides dont je parlais, avec une lumière intermittente du phare qui projette donc trois faisceaux blancs suivis d'une lumière rouge et donc impose le rythme ternaire du film. Si vous vous souvenez bien, tout le film est... se joue des décomptes. Il est structuré comme un compte CONT selon le décompte de 1 à 100 et également selon le chiffre 3 avec 3 Cici, 3 Marie Noyer, 3 enterrements filmés en travelling, soit latéral, soit avant, 3 dépits amoureux pour Madgett, etc. Peter Greenaway explore à plusieurs reprises les possibilité d'un découpage par la lumière venant se substituer à un découpage plus classiquement lié aux contraintes du récit et de ses lois causales. Par exemple, il peut s'agir de... c'est souvent des variations lumineuses internes à une scène, donc ici dans la continuité du plan, dans A Silent Two Notes, qui souligne d'une certaine manière aussi le thème de la dualité informe tout le film. Un autre exemple dans A Silent Two Notes, dans Prospero's Books, et dans The Baby, qui reprend, ces lumières intermittentes avec le jeu de changement de rappeler le dispositif scénique, puisqu'il s'agit normalement d'une représentation théâtrale, et on passe à chaque fois de la scène théâtrale au film. Et donc avec ce rappel de découvrir les spectateurs ou non, ou de les masquer dans l'obscurité. L'exemple le plus spectaculaire est sans doute celui des travelling, donc troués de flashs colorés dans A Z and Two Notes. Et là, j'aurais bien aimé quand même essayer peut-être de partir.
Sitting amongst lighthouses. Each lighthouse is giving you a bearing on lost spaces of time. There are tens of thousands of photographs taken here, all taken very patiently, because decay can be very slow. 9 months for the human body, they say.
L'étrange dispositif mis en place par les deux frères consiste à photographier donc à intervalles réguliers des cadavres en décomposition, puis à projeter les photographies ainsi obtenues en montage rapide. Ce dispositif n'est pas sans rappeler les expériences à la fin du 19e d'Étienne Jules Maret, inventeur de la chronophotographie. Dans les deux cas, il s'agit bien de décomposer un mouvement continu en une série de prises photographiques discontinues. Cependant, le film ajoute une dimension à la déconstruction du mouvement, celle du mouvement linéaire avant ou arrière, propre à la caméra, décomposé par le système d'éclairage qui procède par flash intermittent. Par l'entremise de ces flashs, le déroulement du film devient synonyme de rythmique plastique, que vient encore souligner donc, la musique saccadée de Michael Nyman. Au sujet de cette scène, Sacha Vierny offre un commentaire très révélateur sur la façon de répondre à la demande du metteur en scène. C'est très culotté. Comme un honnête opérateur, je suis toujours préoccupée de savoir vraiment ce que veut le metteur en scène, et en particulier de la nécessité de voir pour bien comprendre. Peter Greenaway me déchargeait, pour ainsi dire, de la responsabilité de voir. C'est cet effet qu'il voulait, peu importe qu'on ne comprenne pas bien de quoi il retournait. Dans les 8 longs métrages que Greenaway réalise avec Vierny, la réduction du mouvement aux variations de lumière se retrouve spécifiquement dans 2 images privilégiées liées à la captation de la lumière, celle de l'eau et celle du feu. L'eau comme le feu ont la particularité d'extraire le mouvement de la chose mue, de dissocier mobilité et mouvement. C'est ainsi qu'on est frappé par la récurrence des miroitements de surface liquide, reflet de lumière ondoyante, intermittente, ici dans Drowning, ici dans The Cook, Prospero, ici dans Eight and a Half Women. Et Sacha Vierny a pu également expliquer qu'il aime utiliser des morceaux de verre pilés, recouverts d'eau, pour obtenir, pour accentuer donc, cet effet de réflexion. De même, feu et feu d'artifice abondent ces longs métrages, que ce soit le court-circuit explosif en finale de A Zen and Two Notes, des fusées en gros plan, des fumées colorées, des bouquets multicolores se reflétant à la tombée de la nuit, des gerbes lumineuses ponctuant l'exécution de l'éditeur. Vous avez quelques exemples ici. de Pillow Book, les feux d'artifice deviennent des scènes quasi autonomes. À la fois gageur technique et pur plaisir visuel, l'art de la pyrotechnie est tout entier contenu dans son geste même. Il est le manifeste d'une œuvre d'art comme pure apparition, indépendante de toute contrainte narrative ou morale. La lumière donc devient spectacle à elle seule et est parfois même mise en exergue par la récurrence des scènes de spectateurs, eux-mêmes éclairés de façon improbable. Donc ici, dans The Belly of the Architect, deux exemples dans Eight and a Half Women. Et elle se dévoile bien sûr dans la captation de sa projection, donc faisant évidemment référence à une certaine définition de l'essence du cinéma. Par exemple, Jacques Aumont a écrit « Ce qui frappe dans le dispositif cinématographique, ce en quoi il se distingue d'un éventuel dispositif pictural et qui en a provoqué l'étude, c'est donc ce qui en lui ne relève pas de la géométrie, à savoir la lumière. » Donc le film est un faisceau projeté, il est lumière, il apparaît tout entier et tout d'un coup sur un écran. Donc on a cette idée de mettre en exergue ce dispositif réflexif de la projection, hein, que ce soit les spectateurs qui s'immiscent dans le champ de la projection sur un écran, ou de façon plus probante que les dispositifs se renversent et que le faisceau lumineux donc soit alors dirigé vers le spectateur. Fabrice Rivaud-Dallon, dans La lumière au cinéma, soulève la question qu'il qualifie de lancinante de l'existence d'un style propre au directeur de la photographie. Donc il rejoint également la question de cette dimension collective ou d'un style propre à l'élaboration dans l'élaboration d'un film. Il y répond en citant la récurrence donc, des couples et leur affinité élective. Je cite, « En règle générale, il apparaît que plus il y a auteur, plus il y a rencontre de son goût personnel avec le goût personnel d'un opérateur. Oui, l'opérateur a un style personnel. C'est cela même qui autorise la rencontre avec un ou quelques auteurs dont le goût va dans le même sens que celui de cet opérateur. » L'étroite collaboration entre Sacha Vierny et Peter Greenaway atteste de cette alchimie. Tous deux ont une prédilection pour les décors nocturnes, comme je l'indiquait, les pénombres, les contrastes paroxystiques d'une part, les couleurs saturées et les lumières artificielles d'autre part, donc souvent accompagnées de longs travelling ou de grandes profondeurs de champ. Tous deux nourrissent une passion pour les défis en termes d'éclairage, comme vous avez pu le voir dans le court extrait, mais donc le catalogue des prouesses d'éclairage est impressionnant, rien que dans The Island Two Notes. En plus de la lumière du jour, sont présents l'aube, le crépuscule, un clair de lune, un arc-en-ciel artificiel, des phares d'auto, un éclairage au néon, des flashs intermittents, donc vous avez pu voir, des étincelles électriques, un court-circuit, les lumières réfléchies sur l'eau, la lumière filtrée par des stores, le tube cathodique, le jet du projecteur, bien sûr, etc. Évoquant sa collaboration avec Sacha Vierny, Greenaway parle donc d'une longue réflexion sur les différentes manières de faire la lumière, ce qui est, après tout, l'une des définitions du cinéma. On en revient. Donc on saurait mieux saluer la contribution exemplaire de Vierny au cinéma, de Greenaway. Et pour reprendre une formule attribuée à Godard, les changements de lumière amènent les changements d'idées.